La rencontre spirituelle, aujourd'hui, une émission spéciale, évidemment, pour le Jeudi Saint. Et évidemment, sur l'Eucharistie, c'est la grande fête de l'Eucharistie, c'est l'anniversaire, quoi, du jour où, il y a près de 2000 ans, Jésus a rassemblé ses apôtres pour leur donner sa chair à manger et son sang à boire. C'est très étrange. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. Et c'est d'une beauté et d'une grandeur. Je vais essayer de vous montrer la beauté de ces paroles. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. » Je m'inspire pour ça du Père Moynier. On dit que l'Eucharistie, la fraction du pain, c'est le cœur, le centre de toute la vie chrétienne. Et on pourrait dire qu'il est impossible de vraiment faire une communauté chrétienne sans l'Eucharistie, sans la messe. On n'y arrive pas. Ça retourne en commune ou en chose qui manque de cette vie particulière qui vient de l'Eucharistie, de la présence de Jésus-Christ. Et l'Eucharistie, qu'est-ce que c'est? C'est pas une cérémonie, c'est pas un culte, non. Même si pendant longtemps, et encore aujourd'hui, nous y mettons beaucoup, avec de l'or, de l'argent, des étoffes, de la musique, des gestes, des processions, ou même parfois des promenades. Et tout cela est très beau, et était très beau. Mais l'Eucharistie, dans ce qui importe le plus, c'est là que je voudrais qu'on aille ensemble, c'est de bien réfléchir que c'est le dernier repas de Jésus avant de mourir, où il se donne, étrangement, je le répète, à manger aux siens. Il se donne à manger. À ceux qui lui donnaient leur confiance, il leur a demandé de le répéter ensuite, de faire la même chose. Et Jésus, donc, vous le savez, fait préparer une magnifique salle qu'on appelle le Cénacle. Il réunit là ses amis, les siens, pour faire le grand dîner d'amitié de Pâques. Après avoir fait le grand repas, Jésus prend du pain, le bénit, et il dit, « Tenez, voilà mon corps, mangez-le. Je vous donne mon sang, buvez-le. » Et il dit, « Vous n'êtes pas seulement unis à moi. Aimez-vous bien les uns les autres. Liez-vous les uns aux autres. » Et c'est pour cela qu'autrefois, on a toujours appelé l'Eucharistie l'agapé, c'est-à-dire le repas de l'amour. Et l'Eucharistie, ben, cela veut dire, vous le savez, hein, je vous l'ai dit, puis vous l'avez entendu dire mille et mille fois, l'Eucharistie, le mot Eucharistie qui est utilisé de plus en plus à la place du mot messe, ça veut tout simplement dire en grec action de grâce, parce que nous sommes des êtres voués, fabriqués pour être des saints qui sont toujours en action de grâce, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en action d'admiration devant Dieu et de remerciement et d'émerveillement. Parce que ce moment-là, Jésus-Christ avait rendu grâce au Seigneur, lui, à son Père. C'est un sacrifice d'action de grâce au Père du ciel. Pour le Christ ressuscité qui a vaincu la mort, et non un sacrifice pour le péché. Je m'explique. Pour se rendre compte de ce qu'est l'Eucharistie, il ne faut pas oublier une phrase que saint Jean employait au début du discours après la scène, au chapitre 13. « Jésus, dit-il, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, écoutez bien, il les aima jusqu'au bout. » Très important, ça, jusqu'au bout. Ou bien jusqu'à la fin, si vous voulez. Mais à condition toutefois que vous ne preniez pas le mot « fin » dans son sens habituel là, et restreint, qui signifie jusqu'au terme, hein, jusqu'à la fin. Là. Car alors vous feriez un bon contresens, cela voudrait dire que Jésus aurait aimé les siens seulement jusqu'au dernier instant de sa vie terrestre. Or, il a aimé les siens, en latin, non pas « usque ad finem », mais « in finem », qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il les a aimés non pas jusqu'à la croix seulement, jusqu'à cette fin-là, non pas jusqu'à la mort seulement, mais bien au-delà. La mort est un terme, oui, mais elle n'est pas la fin de la vie. Si vous le voulez, une route se termine sur un point, mais un arbre ne se termine pas. Il se finit dans un fruit. Le terme de l'arbre, c'est lorsqu'on le coupe et qu'on le jette au feu. Mais la fin de l'arbre, c'est le fruit. C'est tout l'effort vital de l'arbre qui va vers son achèvement. Alors Jésus a aimé les siens jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin, le mot « fin » étant pris ici dans son sens total, c'est-à-dire au maximum, là, jusqu'à la plénitude qui donne son fini, son achèvement à une chose et non pas qu'il la termine. Bon, je change. La fin, c'est le fruit d'une chose, disons. C'est ce qui l'achève. Hein? La fin du mariage, c'est le fruit, c'est cet amour qui s'exprime dans un enfant. Hein? C'est ce qui l'achève. Ici, il n'y a pas d'enfant, mais c'est un fruit d'amour qui doit s'épanouir sur toute la société. L'Eucharistie, ben, c'est le fruit, c'est la fin, c'est l'achèvement de la vie du Christ. Et peut-être est-ce la fin de tout, et peut-être que tout doit aboutir là. Comme dans la Sainte Trinité. Hein? Pensons-y à la Sainte Trinité, puisqu'on c'est l'année du Père, puis on a célébré l'année de l'Esprit, puis l'année du Fils. Le Père, qui est la source, il donne tout son eau, sa nature, à son Fils, qui est la rivière. Cette rivière, celle-ci, reçoit toute l'eau de la source, n'en garde plus aucune goutte et la donne continuellement. Et l'Esprit Saint, ben, c'est la force d'amour du courant. Ils sont trois, ils sont distincts, mais il n'y a qu'une seule nature, qu'un seul avoir. Et voilà l'idéal. Hein? Vous avez déjà fait une émission sur Bergson, puis à la fin de sa vie, il disait, « Mes grandes lumières, lui, un juif qui n'est pas devenu catholique, il disait, « Mes grandes lumières, c'est la Trinité, l'Eucharistie et l'Incarnation. » Ça devrait l'être pour nous aussi. Regardez votre vie, regardons notre vie. Est-ce qu'elle est dans sa direction? Est-ce que l'Eucharistie nous marque le fruit et l'aboutissement de toute la vie du Christ? Est-ce que notre Eucharistie va jusqu'au fruit? Pour en saisir toute l'importance, il suffit de se rappeler dans quelles circonstances Jésus nous a donné l'Eucharistie. Hein? C'est vers la fin de sa vie, on va célébrer ça ce soir, au moment de partir, avant de descendre à Gethsémani, avant de mourir. Là. Donc au dernier moment, mais tout à fait le dernier moment de sa vie terrestre, où il peut encore parler avec les siens, être avec eux, avant sa résurrection évidemment. Et l'Eucharistie, c'est le bout de tout. L'Eucharistie, c'est le bout, l'achèvement de l'amour de Jésus-Christ. L'Eucharistie, c'est le bout et l'achèvement de l'incarnation, jusqu'au bout. Elle doit arriver à l'Eucharistie, l'incarnation, mais elle ne peut pas dépasser, parce que c'est le bout, c'est l'achèvement de la rédemption, c'est l'achèvement de la liturgie, c'est l'achèvement de la vie humaine, c'est en puissance, en devenir, c'est l'achèvement de l'homme, c'est l'achèvement du monde. L'Eucharistie, c'est au cœur de l'univers. C'est l'achèvement de tout. L'Eucharistie, c'est la fin, c'est l'aboutissement normal de l'amour du Christ. Parce que l'amour suit deux lois. Hein? Il y a la loi de la marche en avant, puis la loi de la fusion. Je m'explique. La loi de la marche en avant continuelle. L'amour, quand on aime, on ne peut pas s'arrêter. Regardez les saints qui sont allés jusqu'au bout du monde. Regardez les apôtres, et le Christ lui-même. D'aller jusqu'à la croix. L'amour est pris par une force de marche en avant à laquelle il ne peut pas résister. Il faut qu'il avance, qu'il fasse toujours plus pour se réaliser et qu'il aboutisse finalement à la communion complète avec l'être aimé, à la fusion totale, la fusion totale. Et cette fusion, nous la désirons sur terre, nous l'essayons, hein, c'est dans le mariage. Et le mariage, pourtant, n'est pas une fusion. On a beau faire, il y a toujours deux corps qui restent toujours juxtaposés, même dans l'union la plus intime, telle que voulue par Dieu. Et ils vous permettent de faire des signes d'amour, du corps. Mais il vous empêche de réaliser l'amour. Jamais, jamais vous ne fusionnerez totalement, corporellement. C'est impossible. Vous vous tueriez. D'ailleurs, on se demande quelquefois, avec des psychologues, lorsqu'un homme tue sa femme, lorsqu'un amant tue son amante, si, ou vice-versa, si ce n'est pas à cause de cette exaspération de n'avoir pas pu fusionner complètement. Que voulez-vous? L'homme n'est pas fait pour la terre. Il est fait avec la terre, mais pas pour la terre. Et l'amour qu'il a, là, au fond du cœur, ne peut pas se réaliser complètement avec ce corps-là. Non. Comment faire? L'union charnelle sera toujours une juxtaposition, jamais une fusion. Comment fusionner? Comment on peut arriver à se fusionner? Le corps qui peut lier les gens, mais en même temps les sépare impitoyablement, on le voit bien. Hein? Quand deux êtres s'aiment, il faudra que leur amour soit assez intime pour qu'il devienne éternel, pour qu'il dure. Hein? Comme ce beau texte que je vous ai lu le jour de la Saint-Patrick, ce texte d'un député qui venait de mourir. Il faudra qu'ils s'aiment par le dedans. Non pas seulement charnellement, non. Ceux qui sont mariés seront beaucoup plus unis dans leurs enfants, qui sont leurs fruits, comme je vous ai dit tout à l'heure, que dans la conjonction du mariage. Alors vous entrevoyez ce que c'est que l'amour? Quand cet amour total et divin de Dieu le Père pour nous, l'humanité, est passé en plénitude dans le Fils, est entré dans un cœur d'homme, celui de Jésus, et ce cœur ne peut pas résister. Alors qu'est-ce qui fait le cœur de Jésus-Christ? Le cœur de Jésus-Christ, homme, là, il est comme perdu. Il faudra qu'il aille jusqu'au bout de son amour pour l'humanité, jusqu'à la fusion totale avec l'homme. Et si Jésus-Christ, avec cet amour de Dieu dans le cœur, n'était pas arrivé à la fusion totale avec moi, avec tous, ben je lui demanderai, pourquoi n'avez-vous pas voulu fusionner avec nous? Est-ce que vous ne nous aimiez pas assez? Que vous n'avez pas voulu aller jusqu'à l'unité, jusqu'à la fusion sans confusion des personnes, ou bien vous aimez complètement, Seigneur. Mais n'étiez-vous pas assez fort, assez puissant pour réaliser la fusion? Or, il y a une manière de s'aimer qu'on ne peut pas dépasser, c'est celle qui consiste à se manger réciproquement. Chose étrange, et si Jésus-Christ a vraiment aimé l'homme et la femme, il devait arriver à cet extrême de l'amour, la manducation réciproque, qui est une chose tellement étrange, tellement merveilleuse. Oui, il a aimé totalement, et il était tout puissant, il a donc mis sa toute puissance au service de son amour, puis il est arrivé à l'Eucharistie. Il connaît toutes les lois de la matière, hein? Il les domine, il en fait ce qu'il veut, il dit à chacun de nous, restons nous-mêmes, personnellement, nous fusionnerons, je te donnerai mon corps et tu me mangeras en même temps que je te prendrai et que je te mangerai. Et Bossuet va le dire dans son beau style, j'ai déjà fait une émission sur Bossuet en 96, là. Qui ne sait que dans l'excès d'amour, l'on voudrait se manger? C'est Bossuet qui dit ça, c'est curieux, hein? Et c'est encore ce que disait instinctivement un petit garçon, qui après avoir écouté un prêtre très convaincant pendant une heure, il s'échappe des genoux de son père, puis il se met devant le prêtre, puis il regarde avec ses grands yeux. Petit garçon, hein? Il lui dit, « Dis, toi, j'ai envie de te manger. » C'est pourquoi? Parce que la manducation, c'est l'union la plus profonde que l'on puisse imaginer, et Dieu, en Jésus-Christ, y a pensé, et nous a laissé ce mystère adorable et merveilleux de l'Eucharistie. Quand le petit garçon dont je vous ai parlé dit au prêtre, « Dis-toi, j'ai envie de te manger », ça rappelle les parents qui disent à leurs enfants quand ils sont tout petits, hein, « Oh, je te mangerai tout rond. Oui, je te mangerai tout rond. » Puis on fait des blagues, les enfants rient. Hein. Pourquoi? Parce que la mendication, comme je vous ai dit, le fait de manger, mendication, le fait de manger, c'est l'union la plus profonde que l'on puisse imaginer. C'est curieux, hein? Si je mange le pain et moi, nous ne faisons plus qu'un. On ne fait plus qu'un. Tandis que les autres unions sont des approximations, finalement. La manducation, le fait de manger, est vraiment la fusion. Et Jésus est arrivé à cet extrême de l'amour. Il me prend avec toute ma misère, tout mon péché. Je le reçois avec toute sa puissance, toute sa force. Il me mange lui-même. Je deviens feu. Et j'essaie de le montrer. Il y a dans l'Évangile deux passages très significatifs. J'ai été baptisé d'un baptême, et comme je suis pressé de le voir s'accomplir. Jésus commence sa vie publique par un repas, puis il va la finir par un autre repas que l'on fête aujourd'hui. Il y a le repas des noces de Cana que vous connaissez. Il est avec sa mère, Marie, et ce n'est que le commencement de cette communion avec l'homme qu'il va achever dans la communion eucharistique au Cénacle le soir du Jeudi Saint. Jésus avait dû parler assez souvent à sa mère de son heure, qui viendrait. « Mon heure viendra, mère, dans la fusion. » L'heure, ce n'est pas la passion seulement, c'est l'Eucharistie. Et aux noces de Cana, Marie se dit alors, en elle-même, « C'est maintenant que l'heure est venue. » Et à son fils, elle dit, « Tu sais, Jésus, ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répond alors, « Non, femme, mon heure n'est pas encore venue. » Et à la fin de sa vie, il dira, « L'heure est venue. Glorifie ton fils, Père. » Jésus, sachant que l'heure était venue de passer de ce monde à son Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, voilà, jusqu'au bout, L'heure de Jésus-Christ, c'est cette Eucharistie. C'est son heure. C'est son heure quand il est avec ses apôtres autour de cette nourriture de la Pâque, autour de ce pain et de ce vin qui vont devenir son corps et son sang. C'est pas une Eucharistie qui est séparée de la Passion. L'Eucharistie, la Passion et la Résurrection sont trois aspects d'une même réalité. Puis dans l'Eucharistie, Jésus s'est donné à la mort, donné à la revie, ou à la résurrection, et donné à manger. Et on sent qu'il y pensait depuis longtemps, car au moment de donner l'Eucharistie, là, il a eu cette phrase très, très émouvante, très bouleversante. On peut la traduire littéralement par ces mots-ci. « J'ai désiré d'un désir passionné de manger cette Pâque avec vous avant de mourir. » J'ai désiré d'un désir passionné. Il n'a pas désiré d'un désir passionné de mourir, non, il avait peur même, je vous l'ai dit, déjà cette semaine. Il a désiré d'un désir passionné quelque chose qui est plus que la mort. C'est-à-dire, il a désiré d'un désir passionné de se donner, lui, corps et âme, tout entier, à manger aux siens. Alors il leur dit, « Tenez, mangez-moi et je vous mangerai. Je ne puis pas aller plus loin. Personne n'a tant d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien moi, je me donne à vous. » Et voyez comme il insiste, « Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui. » En lui, en Dieu. Voilà l'Eucharistie, le bout de l'amour du Christ, qui ne pouvait pas dépasser, c'était pas possible de dépasser, ça c'est tellement extraordinaire. Mais il devait atteindre ce moment, sinon nous l'aurions accusé de ne pas assez aimer peut-être. L'Eucharistie, quand on réfléchit vraiment là, me semble, ça se prouve par l'amour. Il n'y a pas d'autre preuve, n'en cherchez pas, me semble, c'est inutile. L'Eucharistie, c'est un acte d'amour ne se prouve pas avec la raison. L'amour ne se prouve pas, il se trouve, il se découvre. Et dans l'Eucharistie, on le découvre. Le grand argument de l'Eucharistie, c'est cet amour de Dieu pour nous manifester dans le Christ Jésus, parce que l'Eucharistie, c'est l'achèvement normal de l'incarnation. On n'y pense pas assez à ça. Dieu veut s'incarner, veut se faire homme. C'est effroyable du point de vue intellectuel. Nous avons peut-être la tentation de croire que l'incarnation, c'est la venue sur Terre du Fils de Dieu au milieu des hommes, mais avec les hommes, qui auraient pris une humanité comme la nôtre, auraient vécu et seraient morts comme nous, puis en partant, nous aurait dit « J'ai vécu comme ça, alors faites comme moi. » C'est une conception possible, elle n'est pas mauvaise. Il y a eu d'ailleurs de grosses discussions à ce sujet au 16e siècle avec des réformateurs protestants. Les réformateurs protestants disaient « Le Christ est venu nous donner l'exemple de l'humanité, il est venu pour nous parler. » Or, le Concile de Trente, connaissez ça, au 16e siècle, au moment de la réforme protestante, c'était la contre-réforme catholique. Le Concile de Trente a simplement répondu aux protestants « Non. » Le Christ est venu pour plus que cela. Il est venu pour une communion vitale et personnelle avec l'homme. Parce que le premier but de Jésus, communier avec l'homme vitalement, c'est pour cela qu'il va en venir à l'Eucharistie. Et le Christ, là, qui est illimité personnellement, vous comprenez ça, hein, le Christ est Dieu. Parce qu'il est la personne du Fils éternel du Père. Mais il vient... Il prend une nature individuelle, là, Jésus de Nazareth, non pas pour s'enfermer dedans, mais il se sert de cette nature individuelle, divinisée totalement par l'emprise du Fils de Dieu. Pourquoi? Pour se tourner vers nous et nous dire, « Maintenant, écoutez bien, cette nature humaine divinisée, je vous la donne, mangez-la. Vous mangerez un Dieu incarné et un homme divinisé. » Vous participerez à ma divinité. Que c'est beau, ce don de Dieu! Nous ne pouvions pas manger un esprit pur. Il nous fallait à nous, les hommes, je dirais de l'esprit incarné. Et c'est ça l'Eucharistie. Par l'incarnation, Dieu prend notre humanité pour nous donner sa divinité. Vous connaissez la phrase, ô échange admirable. Le Créateur du genre humain ayant pris notre nature et nous a fait cadeau de la nature divine. Eh bien, Jésus ne vient pas faire une sorte de partage des richesses, là, du collectivisme vague, flou, purement social. Non, il vient pour s'incarner dans l'humanité, pour la diviniser. Non pas s'incarner dans un petit morceau de chair humaine et se promener au milieu des autres hommes, nous donnant l'exemple d'un beau type d'humanité que nous aurions à imiter. Ça, il l'a fait, et c'est bien, et on peut le remercier. Mais si ce n'était que ça, ce ne serait pas digne de Dieu. Dieu est tout ou rien, et Dieu ne donne pas quelque chose, il ne le peut pas, il ne peut que se donner totalement. La lumière ne peut pas donner une parcelle d'elle-même, hein? Elle se donne tout entière à la violette et à la rose. La lumière ne peut pas se morceler, ni Dieu non plus. Alors Dieu ne donne pas simplement quelque chose. Il ne le peut pas. Il ne peut que se donner totalement. Quand on y pense bien, cet étrange désir de Dieu de se donner totalement, concrètement, sous les apparences du pain et du vin, c'est une chose tellement fantastique qu'il me semble que seul Dieu pouvait y penser. Un homme n'imagine pas de telles choses, de crainte de passer pour fou. Et Jésus-Christ vient s'incarner dans la nature humaine, mais la nature humaine, c'est tous les hommes, et il faudra qu'il rejoigne l'humanité, parce qu'il veut rejoindre l'humanité dans la totalité de la nature humaine. Hein? Pensez à la parole de saint Augustin. Il dit « L'incarnation, c'est l'adoption complète, en un seul, de toute l'humanité solidaire. Nous sommes adoptés solidairement dans l'incarnation par Jésus. Nous sommes solidaires les uns des autres. Aucun de nous n'est un être complet. » À l'homme, il manque la féminité, habituellement du moins. À la femme, il manque la virilité. Ensemble, il nous manque tout ce passé de l'humanité. Il nous manque Abraham, David, du Pharaon, Sénèque. Il nous manque aussi l'avenir. Tout ce qui est humain nous manque. Nous sommes réduits à peu de choses, finalement. Ce qui est à l'image de Dieu, ce n'est pas vous ni moi. Ce qui est à l'image de Dieu, c'est l'humanité solidaire dans son ensemble. Dieu est amour, il n'est pas une seule personne, lui, mais trois personnes qui s'aiment. C'est notre foi fondamentale en la Trinité. Il est pas une seule personne, lui, mais trois personnes qui s'aiment, Père, Fils et Esprit. Dieu est amour, et l'humanité sera l'image de Dieu quand nous serons unis dans l'unité de l'amour. Je lisais beaucoup Paul Valéry quand j'étais jeune, puis il avait bien raison de dire « Moi, je prie avec ce qui me manque », c'est-à-dire avec le monde entier, finalement. Voyez le Notre Père qu'on récite tous les jours. C'est très fort. C'est pas une petite prière individualiste, c'est la prière de tous les hommes, toutes les femmes de l'humanité entière au même Père. Notre Père. Et Jésus vient mettre toute l'humanité dans le divin. Alors pour l'Eucharistie, dont il est question aujourd'hui, mais saint Thomas d'Aquin, saint Albert le Grand, les grands spécialistes dominicains d'il y a plusieurs siècles, diront, s'il prend du pain et du vin, ce n'est pas seulement comme symbole, comme le disent bien des protestants. Non. S'il prend du pain et du vin, ce n'est pas seulement comme symbole, il en prend la substance pour la diviniser à son tour. Il en prend la substance pour la diviniser à son tour. Dans un sens, c'est un symbole, mais c'est un symbole de la créature, nous, qu'il veut diviniser. L'incarnation, c'est donc finalement un moyen dont se sert le Fils de Dieu, qui veut à tout prix saisir, prendre à lui l'humanité entière. Il veut nous prendre. Puis il nous prend dans l'Eucharistie. Hein? Oh, il apprendra pas malgré elle. Il s'adresse à des personnes. Nous avons la liberté de choisir entre le bien et le mal, entre la sainteté ou la médiocrité. Mais il demande notre consentement personnel en offrant lui-même son amour personnel. Et cette communion-là, cette communion, pour se réaliser, ça va demander du temps. Oh, il choisit une élite, et par tous ceux qui accepteront de le manger et de se laisser diviniser, il va rejoindre les autres. Et c'est comme ça que les saints rejoignent les autres. Comme il le dira en employant des comparaisons vivantes et simples, vous êtes les miens. Il parle surtout aux prêtres, car c'est la fête des prêtres qui nous donne l'Eucharistie. Il dit, je suis la lumière. Vous, vous êtes la lumière, allez éclairer, donnez-vous aux autres, prêtres. Je viens donner du goût à la vie, dit-il. Eh bien, vous, vous en aurez et vous serez le sel. Et vous donnerez aux autres le goût de la vie. On peut dire que Jésus dit, j'ai le levain divin. Avec cette humanité, je vous le donne. Prenez-le, faites du nouveau le vin et continuez à le donner dans l'humanité tout entière. Vous êtes le levain dans la pâte. Oui, nous le sommes par notre baptême, nous sommes tous prêtres par notre baptême, mais nous ne sommes pas prêtres ministres comme les prêtres qui ont ce pouvoir et ce devoir extraordinaire. Quand vous venez communier, vous communiez à l'humanité du Christ qui vous dit, tu restes bien personnel, ce que tu es. Je te prends avec moi. Toi aussi, tu es fils de Dieu avec moi, en moi. Et nous ne pouvons pas, nous les hommes, mettre Jésus, le fils de Dieu, sur le même pied que nous. Alors il nous regarde et nous dit, je vous prends et vous mets sur le même pied que moi. Mais alors, me direz-vous, puisque l'Eucharistie est l'incarnation individualisée, à quoi sert le baptême? Écoutez, la théologie, c'est celle de saint Thomas d'Aquin. Le baptême est la porte d'entrée qui vous introduit dans la chambre du sacrement, c'est saint Thomas d'Aquin. Et le baptême est une condition pour entrer dans la vie du Christ eucharistique. C'est une condition. On ne peut pas communier sans baptême. Le baptême, on peut le comparer aussi à une greffe. C'est très beau ce symbole de la greffe que l'on retrouve dans les Écritures. Ah, c'est beau, beau, beau ça. Vous prenez une branche, mettons. Vous la greffez sur un arbre. C'est pas la greffe qui donne la sève, c'est évident. la greffe est la condition nécessaire pour que la sève ensuite passe dans la branche. Et la sève passe alors dans la branche, c'est l'Eucharistie. C'est Jésus-Christ lui-même qui donne sa sève, qui donne sa vitalité et qui vous la communique. Ben, le baptême est la porte, le baptême c'est la greffe. C'est la greffe, tout simplement. Faut pas se tromper. Et le baptême, c'est le commencement, c'est l'ouverture. Il nous donne un droit à la vie elle-même du Christ, le baptême. Si bien que nous pouvons parfaitement concevoir le baptême sans la grâce, sans que la sève circule. Comment ça? Pourquoi? Regardez bien une greffe, puis vous comprendrez. Mettons, quelqu'un, par exemple, qui aimerait un péché vraiment mortel. Il aime son péché mortel. Donc, ce quelqu'un serait séparé du prochain par un refus de pardonner, de se mettre d'accord, mettons. Puis, il peut recevoir le baptême. Il va le recevoir validement, mais il n'aura pas la grâce. Pour avoir la grâce, il faudra attendre. S'il arrive un jour à pardonner et à prier pour le prochain, à ce moment-là, la grâce passe. Il faut avoir le cœur ouvert pour que la grâce passe. Autrement dit, s'il y a un obstacle qui arrête, mais la sève est bloquée, elle ne passera pas dans la branche. Mais on ne refera pas pour autant le baptême, c'est sûr, le baptême peut donner le caractère, c'est-à-dire vous greffer sur le Christ, sans vous donner encore la grâce sanctifiante. Il faudra attendre que l'obstacle soit enlevé, et alors la grâce va passer. Oui, c'est vrai, le baptême, c'est la porte. Le baptême, c'est la greffe. Mais la sève elle-même du Christ, c'est l'Eucharistie. Et saint Thomas d'Aquin a cette belle expression qui est très, très belle. Écoutez bien ça. Par le fait que les enfants sont baptisés, ils sont orientés par l'Église à l'Eucharistie. Et de même qu'ils croient, les enfants, par l'intention de l'Église, qui croient en leur nom, là, mais les petits-enfants désirent l'Eucharistie par elle, par l'Église, et par le fait même, ils en reçoivent déjà l'Esprit avant de recevoir l'Eucharistie. Hein? Ça me rappelle mon petit-fils qui criait dans l'allée centrale de la cathédrale, « Je veux communier, je veux communier !» parce qu'il n'avait pas fait sa première communion, il avait soif. Il voulait s'unir, se fusionner au Christ. C'est l'intention de l'Église qui oriente le baptisé vers l'humanité du Christ. Et voilà l'incarnation qui se continue dans un sens quand nous communions et que nous nous unissons au Christ. L'intention, parce que l'intention de Dieu, l'intention divine, ne peut pas être d'avoir fait un petit bonhomme, là, puis de l'avoir mis au milieu des hommes en leur disant « Regardez-moi bien ». Non. Mais Jésus-Christ ressuscité domine, lui, les lois de la matière. Il dit, « Je suis avec vous jusqu'à la consommation du monde. Ne vous inquiétez pas. Je serai en chacun de ceux qui me recevront. Je me continuerai en vous. Il y aura parmi vous beaucoup de gens qui pourront dire, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Et on a dit il y a longtemps, au début de l'Église, « Christianus alter Christus », le chrétien est un autre Christ. Et nous le mangeons maintenant, et lui, il va continuer sa vie, chez un jeune homme, disons par exemple. Alors, il va faire son sport, vivre sa joie, oui, etc. Il va vivre la vie, Jésus, de la femme, la vie de l'homme, avec ses soucis. Il prendra tout cela à son compte, la vie du vieillard qui n'en peut plus, et même celle du mourant. Le Christ est toujours là. Soit que vous mangiez Jésus-Christ sous le signe eucharistique, soit que vous le mangiez spirituellement par le désir, si vous ne pouvez le faire eucharistiquement et que vous êtes retenu, l'important est que vous le mangez. Alors vous êtes lié à l'humanité du Christ. Et il y a une belle phrase d'un prêtre qui disait « Ah, je n'ai rien à craindre de mon juge, car mon juge et moi, nous ne ferons qu'un. » C'est très simple, au fond. Et c'est pour cela que l'Église tient tant à donner ce qu'on appelle le viatique, la communion avant la mort. Elle ne vous fait aucune obligation, ni de la confession, ni de l'onction des malades pour un mourant. Mais en revanche, une obligation stricte de lui donner l'Eucharistie, le viatique. Ça va à tel point que le prêtre, s'il n'avait pas une hostie à ce moment-là, doit d'urgence dire la messe pour lui porter la communion. Et s'il n'y avait pas de prêtre, les laïcs peuvent et même doivent aller chercher la communion pour la porter aux mourants, dit-on. Parce que le viatique est de nécessité aussi totale que possible. Mais oui, nécessité de moyens, disent les théologiens. C'est un moyen nécessaire. N'en faites pas une petite pratique de religion, c'est pas une petite affaire donner la communion à un mourant. C'est très important. La théologie vous dira encore que dans trois occasions, il est nécessaire de communier. Il est nécessaire et non pas obligatoire. Nécessaire, l'Église ne vous parle pas d'obligation, elle vous parle de nécessité vitale, vitale. Premièrement, au minimum, il faut communier une fois par an, ensemble, pour bien marquer votre appartenance au Christ et à la communauté chrétienne. C'est un strict, strict, strict minimum une fois par année. Faudrait communier une fois par semaine pour survivre. Deuxièmement, dans les épreuves graves, hein, vous ne pouvez pas vous tirer d'affaire sans avoir une poussée de sève, là, comme je disais tout à l'heure, plus forte à ce moment-là. Alors vous allez rejoindre votre Christ, le Christ, qui vous donne la force dans les épreuves graves. Un décès, une maladie grave, des tourments. Réunissez-vous au Christ et vivez-en. Donnez-vous une poussée de sève, comme on dit. Puis troisièmement, au moment de la mort, qui est l'épreuve la plus grave, il vous est nécessaire de communier. C'est une nécessité de moyens pour entrer de l'autre côté avec le Christ, pour partir tous les deux ensemble. Ce n'est pas un devoir de communier, c'est un droit. Oui, c'est un droit. Que nous sommes malheureux d'avoir changé en devoir et en imposition ce qui est en fait de la part de Dieu, du Christ, une proposition, une invitation, puis une exigence vitale. Il a fallu que notre Église, la chrétienté, soit arrivée bien bas vers l'an 1200 pour que le Concile de Latran ait été obligé de faire de la communion à Jésus-Christ un devoir. C'est devenu un devoir une fois par année. Un devoir de manger, imaginez. Alors que l'Eucharistie, c'est pas un devoir, c'est essentiellement un don. Fait-on une obligation de respirer? Fait-on une obligation de manger? Mais non. On le fait parce que c'est nécessaire et parce que c'est la source de la plus grande joie, qui est la fusion avec Jésus. Fils éternel du Père, qui nous recouvre de son esprit et nous donne cette sérénité et ce courage de passer à travers tout, comme les martyrs et comme tant de saints à travers l'histoire dont je vous ai parlé assez souvent. Oui, nous espérons en toi, Seigneur, et tu nous donnes à manger en temps voulu. Si quelqu'un « me mange, dit Jésus, il vit par moi, comme moi je vis par mon Père, si vous voulez. Si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, il a la vie en lui. Hein? » C'est le titre de l'émission aujourd'hui. « Si quelqu'un mange ma chair et boit mon sang, il a la vie en lui. » Ce sont des paroles tellement phénoménales qu'on ne peut qu'y croire. Per absurdum, comme disaient autrefois les gens, par l'absurde. Jésus ne peut être que Dieu pour dire des choses aussi belles. Il dit comme le Père m'a envoyé que je vis par mon Père, celui qui me mange vit par moi. Jésus n'a pas dit à la Samaritaine, vous savez, l'étrangère, la Samaritaine, près de son puits, si tu connaissais tes devoirs, il lui dit pas ça, si tu connaissais tes devoirs, mais avec beaucoup de délicatesse, il lui dit si tu connaissais le don de Dieu. Dieu désire le consentement personnel de notre liberté. Sommes-nous prêts à utiliser notre liberté pour nous donner à lui? Quand Jésus-Christ a notre consentement, là, il est heureux parce qu'il nous aime, il nous a fait. Vous êtes chrétien, Christien, devrait-on peut-être dire, donc membre du Christ. Il faut que vous sachiez, que nous sachions tous, que nous sommes liés par tout notre être au Christ. Ce don de lui-même, Jésus le fait à tous. Et quand il dit « mangez bien tous », ici, dans la chambre, là, l'expression est assez forte, ce mot « tous » ne désigne pas seulement les apôtres, mais aussi, y avez-vous pensé? Il doit s'adresser aussi aux femmes qui sont là, les domestiques qui étaient là et qui assistaient. Ce que je viens de faire, vous le ferez en mémoire de moi. C'est-à-dire, vous renouvellerez ce don en mon nom à tout le monde. Saint Pie X, lui, a fait un grand travail dans l'Église, hein, vous vous souvenez, vous connaissez ça, je vous ai déjà parlé de lui en particulier. Il a fait communier la chrétienté, mais toute l'Église catholique, qui ne communiait plus depuis déjà des centaines d'années ou presque, hein, on communiait rarement. Soi-disant par respect du Christ, on ne mangeait plus l'Eucharistie. Elle n'était plus qu'une cérémonie annuelle. On communiait, il fallait faire ses Pâques. On appelait ça comme ça. Saint Pie X a fait communier les enfants. C'était merveilleux. J'ai fait ma première communion à 6 ans. On savait ce qu'on faisait. La chrétienté a communié par eux, oui. Les enfants ont grandi et de plus en plus, on a communié, mais depuis 20 ans, c'est presque une catastrophe. Mais que de familles je vois, oui, elles sont pas nombreuses, mais que de familles je vois maintenant qui ont le sens de la communion et chacun prend conscience de sa responsabilité puis de sa solidarité vis-à-vis des autres. Et quand l'un ou l'autre enfant ou adulte va communier, il y va au nom de la famille qui communie. C'est assez curieux, on voit des choses merveilleuses. La communion n'est pas une affaire individuelle. Nous la recevons personnellement, mais elle rayonne au-delà de notre petite individualité, là. L'incarnation, en fait, se continue en chacun de nous par l'Eucharistie. On n'y pense pas assez à ça. Elle s'individualise par ceux qui la reçoivent, qui la donnent aux autres. Et vous me direz, mais actuellement, il y a de moins en moins de monde qui la reçoit. Ah, là encore, les enfants nous donnent des leçons. Il y a un prêtre, il n'y a pas longtemps, il disait aux enfants, quand vous avez reçu Jésus, si vous vous figurez qu'il n'est pas plus grand que vous, il passe à travers votre peau, à travers tout, quand vous le portez à la maison ou à l'école. Les enfants n'ont pas discuté, ils ont cru ça, puis 2 jours après, une petite vient voir le prêtre, elle dit, « Ah, aujourd'hui, j'ai fait communier mon papa. » Elle dit, « Comment ça, tu l'as amené à l'église? » Il dit, « Oh non, mais je suis venu communier le matin et j'ai couru à la maison puis j'ai embrassé très fort mon papa et je lui ai fait passer Jésus-Christ à travers la peau. » Vous allez dans votre maison porter Jésus-Christ, ne vous inquiétez pas, vous le portez en vous. Il parlera par vous, avec vous et en vous. Allez seulement. Si vous vous êtes vraiment unis à lui, on s'en apercevra vite. Il ne faut pas diminuer la valeur de l'Eucharistie, hein, Jésus est là tout entier. À la messe, quand nous mettons une goutte d'eau dans le vin, nous disons, le prêtre dit ça, hein, ô Dieu qui avait créé la nature humaine d'une manière admirable et qui l'avait refaite d'une manière plus admirable encore, donnez-nous par le mélange de cette eau et de ce vin d'avoir part à la divinité de celui qui a pris part à notre humanité. Ce sont des paroles fantastiques, mais on ne les entend plus, elles sont dites comme ça. Mais Dieu ne fait rien à moitié quand on les écoute comme il faut, ces paroles-là. Ceux qui ont des objections contre la religion, cela vient de ce qu'ils ne voient pas la totalité du réel de notre foi eucharistique. Il faut prendre notre christianisme dans sa totalité. Il faut mettre l'Eucharistie dans la grande synthèse de l'amour de Dieu. Il faut mettre l'Eucharistie dans l'achèvement de l'incarnation. Puis alors, là, on comprend que l'on se divinise et que l'on devient comme Jésus-Christ, qui devient en nous présent. Jésus-Christ, quand il a promis l'Eucharistie, il a dit à ses disciples, « Mon Père m'envoie au monde. Voilà le pain que le Père vous donne. Il ne vous donne pas de la manne comme à Moïse autrefois. Non, le pain, c'est moi. Je vous demande votre confiance. Et pour cela, il faut que vous fassiez confiance au Père. Si vous ne l'appelez pas Père, vous ne pouvez pas rejoindre le Fils. » Je vais me donner à vous comme un agneau entre les mains du boucher. Alors vous me tuerez, et vous mangerez ma chair, et vous boirez mon sang. Vous me mangerez immolé. Et Jésus insiste, hein? Dieu ne peut pas être absent de l'homme. Si Dieu n'est pas tout, il n'existe pas, ni moi non plus. L'incarnation s'achève là. Dans ce don du Christ, ce don extraordinaire, don de lui-même dans l'Eucharistie. Et la rédemption, mais c'est un travail de libération de l'homme. Nous sommes tous plus ou moins esclaves, ligotés d'un peu partout, et Jésus-Christ nous libère en nous donnant l'esprit d'enfant de Dieu. Oui, il nous apprend à agir par amour, et non par devoir et par peur. Non, non, non. Jésus, lui, la tête de l'humanité, était sur le calvaire, donnant la rançon pour nos péchés, d'accord, mais c'est une rançon d'amour. Hein? Père, que ta volonté soit faite. C'est une volonté d'amour. Dans les affres les plus terribles de la mort, là, à ce moment-là, Jésus-Christ offrait au nom de l'humanité plus d'amour que les hommes peuvent offrir de révolte tout le long de l'histoire humaine. Puis cet amour de Jésus compensait tous les péchés du monde dans le temps et dans l'espace. L'acte d'amour de la tête, Jésus, a compensé toutes les misères des membres. Accrochez-vous à moi. Et par le fait même, vous n'avez plus vos misères. Moi, votre tête, je vous donne ma santé. Je vous donne ma vie. Mais accrochez-vous bien à moi. Et vous êtes libérés du péché. Oh, n'ayez aucune crainte pour l'avenir. Je vais marquer vos places et je vous y conduirai. Allez, allez, soyez libérés de toutes les peurs. Et surtout, aimez-vous bien les uns les autres. Et voilà la libération par amour qui s'accomplit dans l'Eucharistie.